retour sur notre antenne et nous allons passer au fil des mots. Au fil des mots, c'est le titre d'une émission qu'anime régulièrement sur notre antenne Dominique, qui est en train de casser tout notre matériel. Bonjour Dominique.
Bonjour, je ne savais pas qu'il racontait tout.
Et voilà, c'est réparé. Dominique qui anime un lundi sur deux,
oui,
l'émission au fil des mots sur Manosque, une émission dont l'objectif c'est de faire partager votre plaisir ou ton plaisir des mots, tout simplement.
Des mots, tout à fait, de faire découvrir, essayer de faire découvrir, que ce soit des textes de chansons, des poésies, voilà, et surtout des contes et des histoires à faire réfléchir, à faire rêver.
Quand on passe à la radio avec un texte qui est écrit, on est obligé de l'interpréter.
Oui, enfin moi j'estime que voilà, si on veut pas que ce soit monocorde et que ressentir les sentiments, pour moi il faut quand même y mettre son cœur, son âme, donc ça doit se sentir, ça doit s'entendre, donc c'est la voix qui sert à transmettre les émotions, hein, puisque malheureusement on ne se voit pas, donc il faut bien les transmettre par quelque chose, et le plus important c'est quand même la voix.
Alors c'est vrai que c'est un travail de comédien, un travail d'interprétation, et c'est vrai que c'est simplement la voix qui doit charmer et qui doit captiver l'auditeur. On peut pas bouger, on nous voit pas, c'est ce que tu viens de dire. Et comment on choisit ces textes quand on fait cette émission?
Alors c'est vrai que c'est un petit peu difficile, dans le sens où il faut lire énormément pour essayer de trouver une diversité, mais quand même dans chaque émission j'essaie le maximum de trouver un fil conducteur. La dernière émission c'était sur l'amour, le couple, la durée. On essaye de varier quand même, donc ça fait chercher. Comme j'essaye d'apporter, que ce soit à travers un conte, une histoire ou une chanson, il faut que je lise énormément, et c'est vrai que c'est mon seul jugement qui fait que je monte ce type d'émission, en espérant qu'elle soit le plus divers possible, pour qu'au moins quelque chose au cours de l'émission sache captiver un auditeur, si c'est quelqu'un qui se rappe sur le texte d'une chanson ou sur un conte. C'est pour ça que j'essaye de mélanger, de ne pas faire toujours une émission avec la même rythmique, disons. Parce que c'est important aussi de faire une diversité dans le rythme de l'émission.
Avant de faire cette émission sur Fréquence Mistral, tu avais déjà eu une expérience radiophonique ?
Radiophonique, non, qu'une seule fois, où j'avais fait un spectacle assez important sur Radio Fourvière à Lyon, où on avait fait une émission en direct sur l'interview, par contre par rapport à un spectacle qu'on devait donner. Donc c'était une émission d'une heure à l'antenne, et voilà. Mais c'était la seule expérience que j'avais faite.
Sinon, tu as une expérience théâtrale ?
Théâtrale, oui, oui, tout à fait, théâtrale.
Alors, donc ça sert quand même.
Ah oui, énormément. Je pense que pour interpréter les textes en lecture, il faut aimer ça. Mais je pense que ça devait être dans mes gènes un petit peu, parce que toute petite, à 10 ans, je faisais déjà des concours de diction à l'école. Donc voilà, j'aimais déjà les textes, j'aimais déjà être sur l'estrade et déclamer ces vers et déclamer toutes ces choses-là pour justement faire participer les autres. Moi, c'était toujours dans le but d'un rassemblement et de faire découvrir des choses aux gens.
Alors je suis quand même habité par le doute, et pour nous prouver justement que tu dis vrai, tu as apporté un texte.
Oui, j'ai apporté un texte. Alors cette fois, c'est un petit clin d'œil à chez moi. Parce que c'est vrai que je suis originaire de la Bourgogne, et donc pas très loin du Morvan. Et j'ai trouvé dans les contes et légendes, donc, de nos belles provinces, un conte sur une histoire d'un Morvandio. Donc en plus, je vais vous gratifier de mon accent sur cette histoire qui malheureusement n'a pas le charme de l'accent du Midi, mais qui est le mien à l'origine.
On va voyager donc.
On va voyager. C'est une histoire très courte et un petit peu humoristique. Donc si vous permettez, ça s'appelle Le Malin Morvandio. Mais malin, malin ennemi, vous allez voir. Un jour, un fermier Morvandio nommé Gaspard s'en va chez son propriétaire pour lui payer son demi-terme. Il sonne, la servante vient lui ouvrir. « Le monsieur est-il à la maison ?» demande Gaspard. Oui, il déjeune avec trois de ses amis qui l'ont invité. Ah, bon, bah dites-lui que je suis là avec l'argent du terme. La servante va prévenir son maître. Gaspard est venu pour vous payer son fermage. Bon, eh ben dites-lui de monter, lui répond sitôt le propriétaire. Et se tournant vers ses invités, c'est un bon paysan Morvandio, mais pas très malin. Vous allez voir comme je vais me moquer de lui sans même qu'il s'en aperçoive. Vous pourrez rire à votre aise quand il sera parti. Gaspard monte, la servante le fait entrer dans la salle à manger. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Gaspard. Je viens vous payer. »« Bien. Assieds-toi un instant près de la cheminée. Tu viens de loin. Cela te reposera. » Gaspard s'assied, regarde les autres qui mangent. Le propriétaire a un clignement d'œil du côté de ses amis, puis se tourne vers le fermier. « Eh bien, Gaspard, qu'y a-t-il de neuf à la ferme ?»«
Oh, oh, une chose bien curieuse, monsieur. Notre vache, elle a eu 5 petits veaux. »«
5 petits veaux, Gaspard, mais ce n'est pas possible. Et la vache n'a que 4 tétines. Que fait le cinquième quand les 4 autres têtes ?»«
Il fait comme moi, monsieur, il regarde. » »«
Mettez un couvert pour Gaspard, dit le propriétaire qui a compris. » On met le couvert du fermier et il s'attable. On apporte un plat de poisson. Le maître sert lui-même Gaspard et se met dans son assiette les plus petits poissons. Le fermier les prend un à un, les porte à son oreille, écoute, les repose en hochant la tête. « Mais pourquoi portes-tu ces poissons à ton oreille ?»«
C'est parce que je leur demande des nouvelles de mon oncle qui s'est noyé il y a 3 ans. »«
Ils me répondent qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'étaient pas encore nés. »«
Oh, tu voudrais consulter les gros, je pense. Tiens, prends donc cette carpe. » On sert ensuite un beau jambon du Morvan. « Gaspard, en veux-tu un morceau ?»«
Volontiers, monsieur. »
Le propriétaire lui sort une mince tranche. Gaspard l'avale en une bouchée. Alors il sort son couteau de sa poche, se coupe un bon morceau de jambon, le mange, s'en coupe un autre, le mange et va recommencer. « Écoute, Gaspard, je ne voudrais pas t'empêcher de manger. Mais tu ne sais donc pas que trop manger de jambon rend muet ?»«
Ben justement, j'ai une femme bien trop bavarde. Je vais y emporter le reste pour lui faire manger. »
Eh bien, emporte. Mais je ne voudrais pas te retarder. Passe à mon cabinet, je vais te donner tout de suite une quittance. » Et dès que Gaspard et son propriétaire sont sortis, les invités se mettent à rire comme ils leur avaient annoncé leur autre. Mais devinez, ce n'est pas de Gaspard qu'il rit.
belle leçon, belle illustration. Dominique, comment on dit bonjour monsieur en lyonnais?
Bonjour monsieur, en Morvandio.
En Morvandio,
ah,
voilà.
Oui. C'est très élégant, vous ne trouvez pas?
c'est super, mais quand on parle marseillais, c'est pas très élégant non plus.
Ah, oh, c'est un peu plus chantant quand même.
C'est un bonheur en tout cas d'avoir ce type d'émission sur notre antenne et je suppose que ça t'apporte aussi quelque chose un peu jubilatoire.
Oui, bien sûr, parce que c'est toujours pareil, même si j'ai pas le public en face moi, je sais que à travers les ondes, bien ils participent, ils écoutent et puis j'ose espérer qu'il y prend un certain plaisir.
Ben, en tout cas, nous, ici à la radio, et puis Nathalie doit pouvoir aussi témoigner ici, on a grand plaisir à te recevoir d'abord, parce que c'est sans complexe et en même temps...
Ah oui, faut le faire, faut le faire. Vous savez, quand on partage, il faut que ce soit... moi, j'estime qu'il faut que ce soit, allez, comme disent les jeunes, cool. Voilà, il faut le faire sans prétention, mais le faire avec un grand plaisir et surtout, je pense, avec... une âme, voilà.
Alors, je vais te faire un grand plaisir aussi, tu vas voir, c'est qu'on vient de recevoir et qui vient de rentrer. On va lui demander tout de suite de prendre un micro. Ce personnage un peu étonnant, c'est un conteur professionnel, figure-toi.
Ah, voilà.
Il s'agit
super.
De Jean Guillon qui nous fait l'amitié de venir. Jean, tu peux t'approcher, s'il te plaît, prendre un micro. Et qui vient, alors lui il a un système un peu particulier, ça s'appelle le théâtre volant. Non, il vole pas dans nos poches mais il vole et il nous fait voyager. Jean, bonjour. Merci d'être parmi nous.
Oui, mais je suis très heureux d'y être aussi parce que c'est une vieille histoire. Le théâtre volant, en fait, c'est pas le théâtre qui vole, c'est le public.
C'est vrai, voilà, donc c'est mieux. Et tu es conteur, toi, depuis quand même pas mal d'années.
1972
1800
1972.
Ah bon, ça va, j'ai eu peur.
Oh, quand même.
J'ai eu peur, je me souviens de belles soirées qu'on a vécues aux Oralies de Haute-Provence.
Entre autres, oui.
On va lancer un clin d'œil à notre ami là-haut, Yvan Audouard, qui nous a fait tellement fantasmer pendant ces Oralies. Tu as continué, toi, avec l'usage de la parole qui est magique quand on est conteur.
Je ne sais pas, en tout cas pas du point de vue du conteur, tant mieux si c'est du point de vue public. Et c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Mais du point de vue du conteur, c'est une approche très floue et, je dirais, un peu juste avant les mots.
C'est une bonne chose. Et tu utilises, comme nous, en radio, évidemment, toutes les finesses de la voix.
J'aime beaucoup la radio.
Et alors ?
Et alors, quand... là, je pensais à Giono, évidemment, ici, c'est facile. Mais pour justement parler des mots, parler de ce qu'ils sous-entendent et de ce qu'ils peuvent évoquer comme image. Et Giono était un maître en matière, ça.
Et c'était un conteur né aussi, hein.
C'était un auteur, et ça, c'est une chose qui est très différente. Évidemment, sa famille disait que quand il racontait une histoire, c'était extraordinaire, mais il avait le don de le faire passer par l'écrit, et ça, c'est une chose tout à fait admirable.
On a besoin des conteurs, là, Yannon.
Oui.
On a quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre univers, chers amis. C'est Jean-Luc Monteil, qui représente le MEDEF régional et qui nous fait l'amitié d'être là parce qu'il est d'origine manosquine. Bonjour, Jean-Luc.
Bonsoir à tous. Alors, je te reprends. Non, je suis tout à fait en cohérence avec les comptes de Dominique l'intervention de monsieur. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est important, mais ce n'est qu'un chaînon qui constitue la vie, l'expression. Et donc, c'est très, très important d'avoir un pays qui soit fort culturellement, parce que de la culture, c'est l'expression de la civilisation, l'expression de nous tous, actifs, retraités, jeunes. Et donc, c'est important que dans ce pays, on ait cette richesse qu'est la culture, parce qu'elle embellit nos vies. En tant que représentant du patronat régional, je suis très content que dans ce tour de table, aujourd'hui, il y ait la diversité.
Et oui, des compteurs avec un patron, c'est une bonne chose. Et effectivement, il y a des cousinages qui sont intéressants que tu viens de signaler, Jean-Luc.
Puis tu sais que les patrons, ils savent compter.
Alors, permettez-moi de lever le doigt pour demander la parole. Elle m'est accordée.
Vas-y, je t'en prie.
Le comptable et le compteur sont d'une origine proche. C'est computare en latin, et computare était un exercice qui consistait à énumérer les faits historiques selon leur ordre chronologique en les comptant. Alors, il y en a qui ont gardé juste les chiffres, il y en a qui ont gardé le reste.
Les bons comptes sont les très bons amis, donc, si j'ai bien compris.
Très bon.
Partage.
Très bon.
Jean, l'activité du théâtre volant, où tu en es ?
Eh bien, voilà, je vais me déplacer. Alors, il y a plusieurs formules, finalement, pour se déplacer quand on est un conteur nomade, comme je le suis. Le théâtre volant, il sera dans les Hautes-Alpes au mois de juillet, août. Pour ce qui est de juin-juillet, je vais me promener avec quelque chose de merveilleux. C'est une petite caravane que j'ai transformée en forme de roulotte qui est très, très jolie. Et devant laquelle je m'installe, parce qu'il y a un petit perron avec une rampe comme ça, puis j'installe un petit gradin, et on fait ça en extérieur, la saison nous le permet. Et ce spectacle, cette roulotte a été créée, c'est une roulotte décor, dans laquelle je peux vivre aussi, mais elle a été créée pour un texte de Dickens, qui s'appelle Marigold, et que Dickens avait écrit lui-même pour le raconter. Parce qu'on ne sait pas toujours que Dickens gagnait beaucoup plus d'argent avec les spectacles qu'il donnait avec ses textes qu'avec ses bouquins. Dickens racontait devant des audiences de 2000 personnes.
Et sans micro à l'époque.
Et voilà. Vous imaginez le silence qu'il devait obtenir et l'attention du public. Ça a été suivi après par quand Dickens a disparu, il y a un acteur anglais dont j'ai oublié le nom, qui continuait à dire les textes de Dickens et qui avait beaucoup de succès.
Et tu l'as dit en anglais ?
Non, j'ai fait la traduction et l'adaptation. Alors donc, j'ai inventé cette petite roulotte pour donner ce spectacle. Et puis maintenant, je l'utilise aussi pour donner d'autres spectacles quand la saison le permet.
Et c'est comment ça se passe ? Tu t'arrêtes là où ça te convient, prévu ?
Je demande des autorisations, il y a des horaires, il y a de la communication.
Il y a de l'affichage.
Affichage, distribution de prospectus, passage en radio, tout quoi.
Ça arrive, c'est vrai. Quand on vit comme toi du compte, on vit des moments parfois qui sont difficiles. En ce moment, il y a des restrictions budgétaires.
On va pas parler de ce qui emmerde tout le monde. Par contre, il y a une chose merveilleuse, ce sont les rencontres. Et hier soir, j'étais avec un ami que nous avons en commun, qui s'appelle Peter McCavanagh. Est-ce que c'est pas vrai que
musicien irlandais.
Musicien irlandais qui habite Marseille. Et nous avons parlé de toi, qui est guitariste.
Il va bien,
Peter.
Et qui cache tes talents. Oui, c'est vrai.
C'est très dommage parce qu'il faut faire partager les belles choses. Il va très bien, Peter.
Oui, ben, c'est bien d'avoir des nouvelles des copains de Marseille.
Voilà.
Par le biais de copains aussi qui viennent nous voir à la radio.
Voilà.
On aura grand plaisir à aller à tes soirées Dickens et autres.
C'est gentil.
Et le
prochaine fois,
volant.
C'est à Manos que je commence. Qu'est-ce que je sottise, moi ? À Rayanne.
Rayanne, très bien.
Je joue à Rayanne la semaine
prochaine.
C'est
chez vous, Nathalie. Elle habite Rayanne, Nathalie.
Eh ben alors, formidable.
C'est quand ?
Toute la semaine prochaine.
Ah bah, c'est super.
Parfait. Donc, si vous me le permettez, monsieur, est-ce que je pourrais venir vous interviewer, faire un petit reportage ?
Mais avec grand plaisir.
Ouais, c'est très gentil.
Bon,
merci.
On va vous laisser. Hein.
Jaloux.
Moi, j'ai noté qu'il jouait de la guitare. Donc j'ai eu l'habitude aussi de lire des poésies où on m'accompagnait en guitare.
Ah ouais.
Donc la prochaine fois que je viens, il faudra porter la guitare.
Ouais, mais j'ai les doigts de bébé maintenant, c'est fini. Je joue plus.
Voilà
je
comment joue c'est plus. Défile.
Et j'ai et vous
la guitare c'est comme le vélo hein.
Vous savez pourquoi j'ai arrêté la musique? J'étais beaucoup trop cher. Donc effectivement, c'est un problème ça, c'est un problème. Ouais. Bon, ça fait rire la compagnie, c'est déjà pas mal, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux, Dominique et puis Jean à côté, des gens qui font vivre les mots et qui font vivre des émotions rien qu'en parlant. C'est extraordinaire, alors que nous on n'est pas là à la radio pour faire vivre des émotions. Au contraire, on donne des mauvaises nouvelles de temps en temps, au contraire on donne des explications de textes sur des choses qui sont des fois pas drôle du tout, et c'est ce que je partage un petit peu avec le MEDEF qui de temps en temps, Jean-Luc, parle des restrictions budgétaires, parle des conditions de développement des entreprises, et ça va pas très très fort en ce moment.
Alors, c'est une affirmation ou une question, cher ami?
Les deux.
D'accord. Eh ben, effectivement, ça va pas très très fort. C'est-à-dire que dans un pays qui ne sait pas s'adapter, malheureusement, c'est souvent les mêmes qu'on fragilise, c'est-à-dire les plus fragiles. Et ça, c'est regrettable. Et même si les artistes ne sont pas, à mon avis, ceux qui sont le plus à plaindre dans les différentes catégories socio-professionnelles, comme je disais tout à l'heure, et c'est très sincère, moi j'ai une vision de la culture très positive. Donc je me dis qu'effectivement, il ne faut pas décourager les gens qui ont le talent et qui croient dans cet art qui est divers que celui de la culture. Néanmoins, nous, entrepreneurs, on a des problématiques qui sont beaucoup plus pragmatiques, hein. Vous l'avez compris, c'est-à-dire que pour qu'une entreprise et ses salariés demeurent, il faut malheureusement qu'on ait plus de produits que de charges, hein. C'est aussi simple que ça. Qu'on évolue dans un environnement où il n'y a plus de frontières, c'est-à-dire que le numérique, on l'a bien compris, tout se fait. Il y a un certain nombre de situations qu'on peut juger à juste titre un peu déstabilisantes. On voit de grands opérateurs qui font commerce sur notre pays, mais avec des règles fiscales d'autres pays beaucoup plus attractifs. Ça n'empêche pas le consommateur que je suis, que vous êtes, d'acheter sur Internet, malheureusement, avec un certain nombre de conséquences en matière d'emploi, voilà, d'égalité des chances. Et donc, nous, simplement, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de préserver un modèle qui permettent à nos enfants d'avoir un boulot dans 10 ans, à nos retraités d'avoir des retraites décentes immédiatement ou dans 10 ans, enfin, d'essayer d'avoir un modèle relativement équilibré. Alors c'est vrai que le MEDEF, aujourd'hui, dans la philosophie parisienne des médias, c'est le CAC 40. Il y a 750 000 entreprises qui adhèrent au MEDEF. Il y en a donc 40, effectivement, du CAC 40. Mais il y en a plein d'entrepreneurs comme moi, hein. Moi, je suis que patron de petites TPE, que tu connais bien, basé sur Manosque dans les Bouches-du-Rhône. Et voilà, donc moi, j'ai peu de points communs avec les dirigeants du CAC 40 et pour cause. Et par contre, on a beaucoup aussi d'entreprises qui adhèrent au MEDEF, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, des SCOP, des coopératives, etc. Et on n'en parle pas parce que c'est vrai qu'à Paris, ça brouillerait les messages, exactement. Donc on est dans une logique clivante, hein, dont on souffre tous. Ce qui rend inaudible une partie de nos messages, c'est regrettable. Voilà, moi je rencontre des gens sympas au MEDEF. Il y a des cons, mais comme partout. Voilà. Donc rien de très nouveau. Il y a des gens qui bossent, voilà. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens innovants, il y a des gens qui aiment partir en conquête, qui font des trucs extraordinaires. Là dernièrement, j'étais à Aix-en-Provence avec des jeunes thésards, donc ils font des thèses sur 10 ans. Où ils inventent une bactérie pour filtrer l'eau de mer de façon biologique et arriver à solidifier l'or qui est dissous dans l'eau de mer. Un truc de fou. Ou créer des casques de moto en analysant les réflexes naturels des insectes. C'est-à-dire que l'insecte, avant l'impact, il y a un système automatique pour l'insecte où il se protège. Et bien là, ils arrivent, en observant l'insecte, à créer des casques de moto qui, avant l'impact, sécurisent le casque et donc le motard. Enfin voilà, c'est la vie de l'entreprise, c'est aussi tout ça, c'est plein d'innovations, c'est des gens qui prennent des paris fous. L'avantage de l'entrepreneur, c'est qu'il est construit On ne le fabrique pas. Hein. Il est construit et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il ne se fixe pas de limites. Voilà. Et c'est ce qui lui permet de se sortir de situations très complexes. Là, dernièrement, maintenant, on va payer les impôts de nos salariés. Enfin, voilà, on se substitue à l'État. On est un pays où chaque fois qu'il y a une loi nouvelle, il y a souvent une charge supplémentaire. Enfin, autour de la table, je sais qu'il y a des
ça
gens qui
sont... Ça s'appelle la simplification, c'est voilà. Ça
oui. Mais bon, mais à côté de ça, ce pays, il est magnifique. Il y a des gens extraordinaires. Moi, je m'éclate de rencontrer des gens extraordinaires. Alors, pas que dans les entrepreneurs, hein, chez nos collaborateurs. Hein. Voilà, des gens qui ont du talent, qui ont envie. Voilà. Et donc, d'un côté, c'est vrai qu'on pourrait être sinistre. Quand on voit l'actualité, j'ai signé un édito cette semaine et le titre c'est les girouettes et les cathédrales. Voilà. Et les girouettes c'est nos hommes politiques, voilà, où on s'aperçoit bien que c'est un coup dans le zig, un coup dans le zag. Il y a plus de conviction, c'est dommage. Mais à côté de ça, il y a les cathédrales, c'est-à-dire il y a des gens. Je pense qu'il y en a beaucoup autour de cette table, voilà, qui sont pas dans le clientélisme, etc., qui ont des convictions et qui les expriment. Alors dans la culture, dans l'économie, dans le social, etc. Et heureusement qu'on a cette diversité parce que ce pays en a besoin.
Jean-Luc, le MEDEF, malgré tout, fait parler de lui, et notamment le président national, Pierre Gattaz, avec un petit machin qui met sur le rebord de son veston et qui dit 1 million d'emplois. Mmh. Ça a beaucoup fait couler d'encre. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette problématique?
C'est simple. Aujourd'hui, c'est pas impossible, puisque si ma mémoire est bonne, entre 2003 et 2008, et l'autre date, je l'ai oublié, ce pays a été capable de créer 1 million d'emplois. Donc c'est pas impossible. Simplement, ce que dit Pierre, très simplement, c'est de se dire que contre ceux qui nous annoncent la déroute, la fin de notre système social, le fait que grosso modo on a un pays has-been, lui il dit que si on met en place un certain nombre de mesures qui relèvent du bon sens, on a la capacité à recréer de l'emploi, c'est tout. Et pour vous donner une illustration locale, ou plutôt régionale, on vient de sortir une étude économique donc au MEDEF Provence-Alpes-Côte d'Azur qui dit que si on veut maintenir l'emploi dans cette région, il faut qu'on ait la capacité de produire 1,7% chaque année de plus de produits intérieurs bruts régionaux. Alors en clair, il faudrait que pour maintenir l'emploi dans cette région, les recettes produites par le tourisme, l'industrie, etc., croissent de 1,7%. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. On est à 0,2, 0,3, 0,4 dans les meilleures années.
On en est loin, donc.
On en est loin. Donc, la question, c'est de dire, est-ce qu'on reste les bras croisés et auquel cas, malheureusement, on va continuer à dégrader de l'emploi, hein, et ce n'est pas souhaitable, soit on trouve des solutions. Et il y a des solutions, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, on a des problématiques sur ce qu'on appelle des filières entraînantes. Les filières entraînantes, si vous voulez, ce sont des filières économiques qui, à travers leur développement, entraînent d'autres filières économiques, et donc de l'emploi. Vous avez le tourisme, hein, et vous avez l'industrie. Et donc, sur le tourisme, par exemple...
Et la culture.
Oui, mais quel lieu, enfin, excusez-moi, je le mets dans l'environnement touristique parce que, d'une manière générale, si vous voulez, le fait culturel, c'est un support au développement des activités de touristes.
Et ça le devient de plus en plus.
Pour nous.
Donc c'est vrai
nous,
que c'est bien.
C'est certes réducteur, excusez-moi, pour la culture.
Oui, énormément.
Voilà. Mais pour autant, puisque.
Donc il ne faudrait pas le faire.
Voilà.
Puisque c'est réducteur et que vous le reconnaissez, ne le faites plus.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que, regardez, quand vous prenez le Festival d'Avignon.
Je le sais bien,
quand
cher monsieur.
Quand il y a des mouvements et éventuellement des craintes sur la non-tenue de ce festival, moi j'entends beaucoup les acteurs économiques s'exprimer. Donc on ne peut pas décorréler le fait culturel avec le fait économique. C'est ce que nous faisons.
Et on sait bien aussi.
C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame avec le fait touristique. Ce que vous avez fait.
Ouais, mais je pense que c'est quand même un peu lié parce qu'effectivement, les gens veulent venir et veulent se cultiver dans un territoire. Et c'est vrai que si on se contente du soleil, par exemple en Provence, on a tout perdu. On a tout perdu. Il faut qu'on parle d'environnement, il faut qu'on parle de tradition, il faut qu'on parle de patrimoine, il faut qu'on parle de culture. Et c'est vrai que ça mélange un petit peu les choses. Alors, chacun des défenses sa chapelle aussi.
Ouais, juste un petit exemple hein, sur le lien. Donc, pour ça, je n'oppose pas, bien au contraire. Je rassemble. Si vous voulez, je prends l'exemple de Marseille-Provence 2013.
Oh mon pauvre monsieur.
Ouais, peut-être. Mais
je ne sais pas si c'est un très bon exemple.
Ouais, mais en tout cas, c'est peut-être pas la culture que vous défendez. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que du fait culturel, hein, puisque
c'est ce qui permet d'exister à ce genre de grande manifestation, nous sommes d'accord.
Mais au-delà de ça, si vous voulez, c'est que Marseille est devenue une destination touristique qu'elle n'était pas. Aujourd'hui, on a doublé le nombre de croisiéristes. grâce aux retombées que ça a pu avoir. Autour de Marseille-Provence 2013, il y a un certain nombre d'aménagements. Moi, je vous demande, ils ont, entre guillemets, rénové une grande partie de Marseille, en particulier sur la façade méditerranéenne, avec toute la partie...
Le Vieux-Port,
Mucem,
autour du Mucem, etc., la Major, etc. Et donc, grâce à cette manifestation culturelle, tout le développement, l'urbanisme a su évoluer. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont du boulot parce que grâce à cette opération, on a su, entre guillemets, l'animer, l'alimenter. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas naturellement en opposition, mais qu'il y a des liens, il y a des prolongements naturels entre la culture et l'économie.
Et je vous remercie de bien faire la distinction entre la culture et le tourisme.
Et le tourisme.
C'était sur ce point que nous étions.
Avec évidemment en filigrane l'intérêt général pour tous et pour le territoire, que ce soit pour les entreprises, pour les artistes ou pour les associations comme cette radio associative. Jean-Luc, justement, tu es dans une radio associative. Ce matin, on a entendu Denis Vogade, que tu connais bien, président de l'Union des entreprises, de l'UDE. Tu as toi-même été président de l'UDE 04. Une radio comme la nôtre, c'est un plus pour le patronat de manière générale, que ce soit d'ailleurs le patronat d'entreprise classique ou alors l'économie sociale et solidaire. C'est un plus, une radio dans un territoire ?
Alors moi, j'en suis convaincu pour une raison très simple, c'est que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je me souviens mes nombreuses heures passées à Radio Mondor.
Hein, ici même, à Manosque.
Que certains manosquins ont eu la joie d'entendre. Et puis, il y a eu un changement de municipalité, malheureusement de gauche à l'époque. Les budgets nous ont été malheureusement sciés par deux ou par trois, ce qui a rendu la radio impraticable. Et on est partis les uns après les autres, même si on était bénévoles. Mais voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, j'aime dans la radio cette capacité de donner la voix. La voix est libre aux citoyens, c'est ça qui est génial, ce qui permet de rassembler toutes les sensibilités, de pouvoir les exprimer. Au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même aussi dans un environnement à danger. On a connu les grandes crues, on est pas loin de Cadarache, etc. Et je pense qu'on ne mesure pas l'intérêt d'avoir une radio de proximité pour éventuellement accompagner des mesures un peu de cadre, enfin, dans l'urgence.
D'alerte.
Voilà, ce que la presse écrite ne peut pas faire, ce que pourrait faire le numérique d'une certaine manière, mais ce que fait très facilement la radio, c'est de nous mettre en proximité avec les événements, qu'ils soient bons ou moins bons. Et donc, je suis un fervent défenseur de la radio, et en particulier de la radio associative, parce que c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que dans une association, il suffit de s'impliquer, hein, pour, entre guillemets, pouvoir participer à un projet collectif et le faire évoluer. Et l'association dans la radio, c'est un peu ce qu'on devrait vivre dans notre société. C'est-à-dire qu'en définitive, on n'est pas que des spectateurs. Il ne tient qu'à nous impliquer pour justement faire bouger les lignes. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, modestement, à travers mon mandat régional et national. C'est de dire que rien n'est impossible et qu'avec un peu de volonté, on doit être capable de faire porter des idées. Et effectivement, des fois, il y a des prises de position au MEDEF que je combats parce que je considère qu'elles ne correspondent pas à la philosophie de la vie en général que j'ai et de la relation que j'ai aux autres.
C'est vrai aussi que le fait que l'économie sociale et solidaire puisse se reconnaître dans un organisme qui regroupe le patronat de manière très, très classique, avec lequel on n'a pas d'affinité. Les CAC 40, c'est évident que c'est à l'opposé des valeurs associatives, pour nous en tout cas. Et donc, on peut se retrouver avec des TPE, des PME, sur des notions d'équilibre sociétal, sur des notions environnementales, sur des notions sociales tout simplement. Et nous, par exemple, on ne délocalise pas. Nous, on n'a pas de carnet de commandes, des choses qui occupent les éléments de langage du MEDEF régulièrement. Et bon, on vit dans autre chose, on anime notre territoire. Alors, on gère aussi, il y a 20 employés ici même.
Oui, donc bon, c'est super, mais ce que je veux dire, c'est n'opposons pas les modèles. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, Il y a les grandes banques qui sont fortement décriées. Aujourd'hui, le Crédit Agricole, comme tu le sais, c'est une banque coopérative. Donc, elle relève, entre guillemets, de l'économie sociale et solidaire.
Et elle a fait des bêtises en Grèce.
La Caisse d'épargne aussi, le Crédit Mutuel aussi, Super U aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que attention à ne pas tomber dans ce qu'on reproche, c'est-à-dire d'un côté la culture de la vertu et l'autre côté la culture du vice. Si c'était aussi simple que ça... ce serait génial pour la compréhension de nos auditeurs. Sauf que la vie, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont vertueux, quel que soit l'écosystème dans lequel ils évoluent, puis il y en a qui sont vicieux. Voilà. Et donc, l'économie sociale et solidaire, oui, pourquoi pas? Comme je te l'ai dit, on a pas mal d'entreprises qui relèvent, qui sont adhérents chez nous et ça pose aucune difficulté. J'ai été, je pense, le premier président du MEDEF en région à organiser à Sciences Po Aix un grand débat sur l'économie sociale et solidaire et sur la complémentarité des modèles. Mais, parce que pour moi, il y a complémentarité, il n'y a pas opposition. Mais voilà, attention, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le gros de vos adhérents et surtout ce qui fait le gros des troupes en matière d'emploi, voilà, ce sont des entreprises comme les nôtres. Effectivement, il y a un système coopératif, mais dans les pratiques, on ne peut pas dire qu'elles aient des pratiques plus vertueuses que les autres. Et après, effectivement, il y a tout le monde associatif, comme cette radio, où je reconnais bien que le modèle marchand est différent. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, après, pourquoi les opposer? Moi, je ne vois pas l'intérêt de nous opposer, au contraire.
Il faut qu'il y ait une liberté de choix dans notre société, aussi bien pour l'information que pour la culture et pour l'économie. Merci encore Jean-Luc d'avoir été notre invité.
Ça fait un plaisir.
Merci aussi Dominique d'avoir lu ce magnifique texte. Bonjour monsieur, comment on dit ?
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur, en morvandio. Et merci Jean aussi de m'avoir donné des nouvelles de Peter. À très bientôt.